Le mercredi 8 septembre, en la fête de la Nativité de la Vierge Marie, notre évêque, Mgr Marc Haillet, a présidé la messe de rentrée de l'enseignement catholique, messe de rentrée de l'enseignement catholique au cours de laquelle Mgr Marc Haillet a envoyé en mission les nouveaux chefs d'établissement du diocèse. De nombreux chefs d'établissement, de nombreux enseignants et personnels non enseignants de l'enseignement catholique étaient présents, ainsi que quelques prêtres, dans l'assistance également quelques familles et des enfants. L'évangile a été proclamé par le diacre présent, qui n'est autre que le directeur diocésain de l'enseignement catholique, Jean-Marc Appol. Nous allons maintenant entendre l'homélie de Mgr Marc Haillet, et juste après, je vous donnerai la liste des nouveaux chefs d'établissement de l'enseignement catholique dans notre diocèse. Voici l'homélie de Mgr Marc Haillet en l'église Saint-Amand de Bayonne le 8 septembre, lors de la messe de rentrée de l'enseignement catholique.
Pardon d'avoir imposé à notre directeur diocésain de l'enseignement catholique, Jean-Marc, la lecture longue de la généalogie de Jésus alors qu'il est à faune. Pas tout à fait, parce qu'on a bien entendu, en fait. C'était très audible. Et c'était bien proclamé, bien sûr. Mais ça me semblait important de ne pas occulter cette partie un peu plus rébarbative de la généalogie de Jésus, avec ses noms tous imprononçables les uns que les autres, encore plus imprononçables pour moi encore un petit peu que les noms basques. Mais c'est magnifique cette litanie, parce que c'est une profession de foi. Et l'évangile, c'est pas d'abord une enquête pour savoir si Jésus est vraiment un prophète ou le Fils de Dieu. C'est une profession de foi qui est proclamé par un croyant, quelqu'un qui nous dit d'emblée au début de son évangile, de manière sémitique et donc presque un peu détournée, qui est Jésus, celui dont il s'apprête à rapporter les paroles et les gestes, qui sont les paroles et les gestes de notre salut. Vous avez entendu cette litanie qui nous berce comme des vagues qui viennent frapper la plage les unes après les autres, apportant d'ailleurs du fond de l'océan, et ici du fond de l'histoire de l'humanité, des choses qui sont belles, des perles précieuses, puis aussi quelques débris, détritus. Il faudrait regarder l'histoire de chacun des personnages qui sont cités dans cette généalogie pour s'en accorder. Et puis tout d'un coup, il y a une rupture de la généalogie. Alors que c'est toujours un homme qui engendre un homme, un homme qui engendre un homme, un homme qui engendre un homme. Tout d'un coup, on dit, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Jésus n'a pas été engendré par un homme, mais il a été engendré dans le sein virginal de Marie par l'action de l'Esprit-Saint. Car Jésus n'est pas un homme comme les autres, il est le Fils de Dieu. Celui qui arrachera à Pierre, à César et de Philippe, cette profession de foi émouvante. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Celui à qui Thomas, l'incrédule, dans lequel nous nous reconnaissons tous, en particulier dans notre temps un peu rationaliste et sceptique, mon Seigneur et mon Dieu. Et voilà comment l'évangéliste nous rapporte la manière dont Joseph, l'époux de Marie, reçut cette révélation, dans quelle interrogation il était plongé, dans quelle perplexité. Attendez, n'imaginez pas qu'il ait douté un instant de l'intégrité de la Vierge Marie. Qui mieux que Joseph, dont Matthieu nous dit qu'il est un homme juste parmi les justes, pouvait s'accorder de la pureté de Marie, de sa fidélité, de son intégrité? Il n'a pas douté de Marie, mais il a douté de lui. Il a deviné, sans comprendre, qu'il y avait là un mystère dont il était indigne. D'ailleurs, il voulut, il résolut, l'avait-il complètement fait d'ailleurs. On l'imagine se retournant sur sa couche, dans sa perplexité. Qu'est-ce que je vais faire devant ce mystère ? Cette femme dont je sais qu'elle veut demeurer vierge, alors que nous n'avons pas mené vie commune, qui revient après 3 mois passés auprès de sa vieille cousine Élisabeth, enceinte, il résolut de la renvoyer secrètement. Or, c'était un homme juste, et un homme juste aurait dû la répudier publiquement s'il était convaincu de l'adultère de Marie. Et c'est alors qu'il ressassait sa perplexité, son indignité, ne se sentant pas digne d'un tel mystère, que l'ange lui apparut, alors que par lui-même, il avait renoncé à trancher. Et lui dit, ne crains pas, Joseph, fils de David, de prendre chez toi Marie, ton épouse, parce que ce qui advient en elle vient de l'Esprit Saint. Elle a conçu un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, qui veut dire le Seigneur sauve, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est très important pour nous en ce début d'année scolaire, pour vous en particulier qui portez la responsabilité de vos établissements d'enseignement catholique, que de commencer aussi avec Marie, dans le mystère de sa nativité, par un acte de foi. Un acte de foi en Jésus, Sauveur, capable de sauver l'homme d'aujourd'hui, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, lui sans lequel on ne peut pas être sauvé, celui seul qui peut éclairer l'humanité, celui seul qui peut descendre dans son cœur pour le guérir, le consoler, le libérer, le délivrer. Comme il faut que nous nous accordions nous-mêmes pour entreprendre une telle mission reçue de l'Église et à travers l'Église de Dieu lui-même, de cette foi en Jésus, Fils de Dieu, Sauveur des hommes, dont l'Évangile est encore capable de sauver l'homme d'aujourd'hui, de promouvoir son humanité, de faire grandir son humanité. Un humanisme sans Dieu est un humanisme qui devient inhumain. C'est l'Évangile qui nous le dit, même si cela a été dit récemment par le pape Benoît XVI, mais en puisant la source même de l'Évangile. Vous voyez comme c'est important pour ceux qui ont une charge d'éducation, de partir de cette foi, ce qui n'empêche pas les perplexités, ce qui n'empêche pas les épreuves, ce qui n'empêche pas les interrogations, ce qui n'empêche pas les doutes même. Mais dans la perplexité, que fait Joseph, le juste Joseph ? Il reste attentif à cette lumière supérieure, à sa raison, à cette lumière qui est la sagesse de Dieu, qui nous est sans cesse révélée, qui est à notre disposition, en particulier dans la parole de Dieu, lue en Église, avec 2000 ans de méditation de l'Église. Je vous invite, chers frères et sœurs, en particulier vous qui avez des responsabilités dans nos établissements d'enseignement catholique, à être des auditeurs de la parole de Dieu, à puiser sans cesse dans la Sainte Écriture interprétée par l'Église, à travers par exemple le catéchisme de l'Église catholique, qui est une mine aussi et une source pour éclairer sans cesse notre foi et pour l'approfondir, et pour que dans nos décisions, parfois difficiles, comme dans toute démarche éducative, nous soyons avant tout à l'écoute de cette lumière pour aujourd'hui, de cet Évangile qui est tellement actuel, qui nous rejoint dans le concret de nos existences et de celles de tous ces enfants et de toutes ces familles qui vous sont confiées. Voyez, je pensais en même temps que j'écoutais cet Évangile et en réfléchissant à votre qualité, en particulier vous, les nouveaux chefs d'établissement, qui allez recevoir une mission de l'Église pour animer une communauté éducative dans un établissement qui a un projet éducatif propre, qui est inspiré de la foi de l'Église, qui est inspiré de notre foi. Je me disais, l'Église vous a fait un sacré tour quand elle a décidé de confier à des hommes et des femmes laïques en vertu de leur baptême et de leur confirmation, la responsabilité pastorale dans nos établissements d'enseignement catholique. Je dis qu'elle vous a joué un sacré tour, parce que si elle vous a donné cette responsabilité, c'est parce qu'elle est convaincue que dans nos établissements d'enseignement catholique, le projet pastoral fait partie intégrante du projet pédagogique d'ensemble de nos établissements, et n'est pas seulement quelque chose qui est à côté. Comme dans l'enseignement public, il y a une aumônerie de l'enseignement public qui est chargée de la pastorale, mais ça ne regarde pas, évidemment, en terre de laïcité, ni le directeur, ni les enseignants, ô combien. Mais dans nos enseignements d'établissements d'enseignement catholique, c'est autre chose. Le projet pastoral, la proposition de la foi, qui doit être faite à tous, selon leur degré d'attachement à l'Église, fait partie intégrante du projet éducatif. C'est même son âme, sa colonne vertébrale, et ne peut donc jamais être rejetée aux marges. Mais quel fardeau, hein, exigeant pour vous, j'ai bien conscience, qui suppose une conviction dans la foi, qui suppose d'essayer de vivre en cohérence avec l'Évangile, comme tous les ministres que nous sommes. Et Dieu sait si c'est un combat de toute une vie chrétienne, de baptisé ou de prêtre. Mais je vais vous dire chose encore plus. Si cette responsabilité vous est dévolue par l'évêque que je suis, avec tous les évêques qui ont pris cette décision en France, elle n'est pastorale que par analogie, hein, parce que, au sens propre, ne peut avoir une responsabilité pastorale de premier ordre que celui qui est configuré au Christ, pasteur de l'Église, par le sacrement de l'ordre. Il n'empêche que vous avez reçu cette responsabilité, qu'il n'est pas question de vous l'enlever. Mais je souhaite que chacun et chacune d'entre vous, dans la mesure où vous acceptez cette responsabilité de chef d'établissement dans le sement catholique, vous exerciez votre mission pastorale en lien étroit avec un prêtre, que ce soit le curé de votre paroisse, et je remercie les prêtres ici présents, assez nombreux, qui montrent l'intérêt qu'ils portent à nos établissements d'enseignement catholique, et ça fait partie des priorités de leur ministère lorsqu'il y a sur leur paroisse un établissement d'enseignement catholique, une école, un collège ou un lycée. Mais je souhaite que vous exerciez votre mission pastorale en lien étroit avec un prêtre, que ce soit le curé de la paroisse ou que ce soit un prêtre que je missionnerai comme prêtre accompagnateur de vos établissements, et je vous l'ai promis, je ne sais pas quand est-ce que nous pourrons le faire complètement, mais de pouvoir missionner dans chaque établissement un prêtre pour être avec vous dans cette pleine complémentarité, dans cette pleine co-responsabilité des prêtres et des laïcs dans cette mission qui vous est confiée. Alors je vous remercie d'avoir accepté cette charge, et je vous invite à en mesurer tout le sérieux. C'est une grande confiance que l'Église vous fait, c'est une grande confiance que le Seigneur vous fait, comme elle nous le fait à nous, et nous avons tous bien conscience que nous ne sommes jamais au diapason des responsabilités qui nous sont données, moi le premier qui vous parle, moi le premier, mais nous savons pouvoir nous appuyer sur le Seigneur, nous savons pouvoir nous tourner vers le Seigneur pour lui demander la lumière et la force, d'être capable, avec tous ceux qui collaborent à notre charge, d'avancer dans cette mission pour le service des familles qui nous font confiance, pour le service de ces jeunes qui doivent pouvoir, à travers nos établissements, grandir de toute manière, en humanité et en grâce. Et la grâce, c'est l'accomplissement même de l'humanité qui nous a été donnée comme une tâche à accomplir par le Seigneur lui-même, qui est notre Père et Créateur. Tournons-nous aujourd'hui, au seuil de cette année scolaire, vers la Vierge Marie. Prenons Marie avec nous, comme l'ange en faisait l'invitation à Joseph, dans sa perplexité, mais aussi dans sa docilité, dans sa disponibilité à la parole de Dieu et à la volonté du Seigneur. Tournons-nous vers elle, prenons-la dans notre vie. Qu'elle nous guide, qu'elle soit notre mère, qu'elle soit l'étoile de de notre espérance dans une mission d'éducation qui est ô combien une mission d'espérance. Amen.
Vous venez de suivre l'homélie de notre évêque, Mgr Marc Hayet, lors de la messe de rentrée de l'enseignement catholique le mercredi 8 septembre 2010 en l'église Saint-Amand de Bayonne. Mgr Marc Hayet et Jean-Marc Apol, directeur diocésain de l'enseignement catholique, ont envoyé en mission les nouveaux chefs d'établissement de l'enseignement catholique. En voici la liste. Sébastien Belasquin, école Jeanne d'Arc Boucau, Emmanuel Bourras, école Saint-Léon Bayonne, Catherine Briand, école Saint-Paul-Sainte-Marguerite Bayonne, Sylviane Foussatz, école Saint-Joseph-Gélos, Genofa Gara, école Saint-Joseph-Isturitz, Christelle Lambadibar, école Saint-Joseph-Mouguer, Nathalie Lissiaga, école Sainte-Marie-Saint-Jean-Pied-de-Port, Maëlys Monlon, école Immaculée-Conception Ayer, Jean-Luc Mouesca, école Sainte-Marie-Biarritz, Nathalie Hospital, école Sacré-Cœur-Souraide, Marie Robert, école Saint-Joseph-Bonloc, Jean Darac, collège lycée Saint-François-Moléon, Paul Debruin, collège Saint-Joseph-Lycée Agricole Notre-Dame-Sauveterre de Béarn. En espérant n'avoir écorché aucun nom, je vous laisse avec ce chant à la Vierge Marie qui clôturait cette messe de rentrée de l'enseignement catholique le 8 septembre à Bayonne en l'église Saint-Amand, messe de rentrée de l'enseignement catholique présidée par notre évêque Mgr Marc Hayet.